Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
On va passer à la partie interview. On va commencer par toi, Fatou. Est-ce que tu veux bien te représenter, s'il te plaît?
Oui. Alors.
Pour les personnes qui nous rejoindraient maintenant, par exemple.
Donc je suis Guérassi Fatoumata, je suis la créatrice de la marque Guérassi Fatim, qui est une marque de prêt-à-porter féminin, qui met en avant les cultures diverses des femmes dans le monde. J'ai commencé en m'intéressant à ma propre culture, qui est plutôt l'Afrique de l'Ouest, le Sénégal, la Guinée, le Mali. Et ensuite, j'ai commencé à explorer beaucoup plus de cultures féminines parce que je trouve qu'à plusieurs endroits, on se rejoint. Et c'est ce qui m'intéresse le plus dans mon travail, c'est de faire les liens et les relations entre les traditions, les coutumes. Et je trouve ça hyper inspirant. C'est une fontaine d'inspiration, en fait. Ça s'arrête jamais. Il y a toujours des nouvelles découvertes. Et voilà. Et à côté de ça, je suis aussi styliste pour des artistes. Je fais aussi de la direction artistique. Donc voilà.
D'accord, ok. Et comment est-ce que tu t'es lancée dans la mode?
Je me suis lancée dans la mode... Comment je me suis lancée dans la mode?
Est-ce que tu as toujours voulu être créatrice de mode?
À partir de mes 15-16 ans, oui. C'est-à-dire D'accord. que j'ai toujours aimé faire du dessin. J'avais des bonnes notes en dessin. J'étais la prof préférée de... Enfin non, l'élève préféré de ma prof d'art appliqué. Et je ne faisais pas forcément le lien avec la mode, mais j'ai toujours aimé m'habiller. Ma mère, c'est une femme qui a toujours été coquette, qui met un peu comme la reine Elisabeth, associer ses couleurs, parce que c'est aussi quelque chose qui est très présent chez nous. Tu vas associer les bouts d'oreilles avec le couvre-chef. Enfin, ça pouvait paraître peut-être un peu too much, mais j'ai grandi dans ça, en fait. Et je pense que ça s'est fait naturellement. Tu sais, t'arrives à un moment au collège où tu fais le test pour savoir ce que tu veux faire. Et là, ça me stylise et je me dis, mais oui, c'est ça que je veux faire. Je me renseigne un peu plus et je me dis, bah oui, évidemment. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé un peu dans la mode. Enfin, D'accord. En tout cas, c'est de là que vient ma passion pour la mode. Après, comment j'ai commencé? J'ai commencé avec une mini collection que j'avais faite pour un peu montrer ce que je savais faire. Je travaillais à côté. Je voulais juste avoir des visuels, pas forcément commercialiser. Et ça a pris une certaine ampleur qui fait que ben, je me suis dit que j'étais vraiment faite pour ça. Et donc voilà, c'est comme ça que
Est-ce que tu as déjà eu, avant de te lancer, est-ce que tu avais peur de te lancer justement en disant bah, « En fait, je suis une femme noire et j'en vois pas beaucoup dans le paysage. Du coup, est-ce que j'ai le droit de le faire ?»
Non.
Très bien.
On adore. Non, en fait, j'ai toujours. Enfin, on va dire que je suis arrivée à Paris en 2011-2012, parce qu'à la base, je viens d'Auvergne. Je pense que depuis très petite, je me suis toujours sentie spéciale. Je mettais toujours des robes de princesse. Vous savez, les robes de baptême, tu les mets pour aller acheter une baguette avec ton père et il te dit OK.
T'étais too much, quoi.
J'étais too much. Mais. Enfin, je sais pas. On m'a toujours confortée dans l'idée que c'était pas hors norme. Donc voilà, j'ai toujours ce petit côté où ouais, je me sentais spéciale. Et du coup, quand je suis arrivée dans les métiers de la mode, par vraiment la petite porte, en tant que petite main, habilleuse, ce genre de petit métier-là, et que je me suis rendue compte que je pouvais pas accéder à des grandes places, pour moi, c'était naturel de me dire « mais il faut que je crée ma propre... » Ma propre marque. Je pourrais être DA, je pourrais être photographe, je pourrais être tout ce que je rêve d'être et qu'on me laissera pas l'occasion d'être, en fait. Je peux pas me contenter de rester dans cette position en sachant que j'ai des capacités et que j'ai aussi surtout un gros besoin de m'exprimer et de partager mon univers avec d'autres personnes. Donc voilà.
Et t'avais pensé à... Enfin, t'avais traversé quelle maison, par exemple, et qu'est-ce que t'as appris dans ces maisons?
J'en ai traversé beaucoup parce que j'étais en intérim. Donc du coup, tu pouvais changer d'une semaine à l'autre. Que ce soit Givenchy, Céline, Chanel. Enfin, on est à Paris, donc c'est aussi pour ça que je suis venue vivre ici. C'était pour avoir accès à tout ça, du coup, assez facilement. Parce que quand tu rentres en tant qu'intérimaire, t'es là pour des petites périodes, mais en même temps, tu vois tellement de choses. Et voilà, moi, ce que j'ai appris, c'est que... Je pense que partout où j'allais, j'étais hyper observatrice. Et je me disais, ah, OK, c'est comme ça que ça marche, OK. Donc ça, je note, je garde en tête... C'est des choses que je connaissais pas. Enfin, l'école, c'est bien, mais t'apprends vraiment sur le tas. Sur le tas et avec des tontons et des tatas qui sont là depuis des années et qui vont t'apprendre des nouvelles techniques. Qui vont te dire, regarde, fais plutôt comme ça.
C'est vrai, ça.
Parce que t'avais quoi comme formation scolaire académique justement?
J'avais un BEP et un bac pro, artisanat et métier d'art, option couture floue.
D'accord.
C'est long.
Et justement, l'option tailleur, après, tu l'as apprise sur le tas, du coup?
Tailleur, je l'ai fait un peu plus tard. Donc, j'ai commencé l'intérim, mais ensuite, avec un espèce de, on avait un espèce de compte où tu pouvais demander des formations.
Et on à dirait ce moment-là, une arnaque de Magali Berla. Oui, d'accord.
À ce moment-là, j'ai demandé à faire une formation tailleur.
D'accord. Et toi, tu étais plutôt... Justement, est-ce que, pourquoi t'avais pris cette option flou? Est-ce que tu préférais le flou au tailleur à l'époque ou c'était le hasard de la vie?
Ça me paraissait plus naturel d'aller vers le flou.
Ouais.
Parce que c'est et féminin, c'est... Voilà.
D'accord.
Ça me faisait plus rêver, en tout cas.
Ah ouais. Bah c'est vrai, après, quand on a... comme tu avais décrit, tu étais une... Enfin, voilà, tu disais qu'à ton adolescence, tu étais voilà, avec des robes de princesse, etc. Et c'est vrai, en réfléchissant, c'est plus cohérent que t'ailles dans la catégorie flou que tailleur. Parce que c'est vrai que flou, on utilise vraiment des matières très princesses, oui, très féeriques, très...
Très féminines.
Très féminines, ouais.
Et puis... Je sais pas, je trouve qu'on est plus créatif.
Ouais, ouais.
On se laisse un peu porter par le truc, alors que le tailleur, c'est faut être carré.
Et tu disais que tu avais un énorme besoin de t'exprimer et que tu avais envie de fonder ta propre marque pour ça aussi. Est-ce qu'il y a eu un déclic où tu t'es lancé? C'était quoi tes premières difficultés en te lançant?
Bah, c'était de créer une marque à partir de rien, sans moyen, de travailler à côté, d'avoir... de boulot et de rentrer à la maison et de travailler encore. Je pense que la plus grosse difficulté, c'était ça.
Et donc, c'était un obstacle financier, administratif et aussi le temps, puisque
oui,
tu avais déjà...
Ouais.
Ok. Et...
Si aujourd'hui, je devais conseiller des jeunes créatrices ou créateurs, enfin, oui, il faut croire en soi et tout est possible. Mais c'est bien d'être entouré. C'est bien d'avoir de l'argent de côté ou de... C'est vraiment bien.
Tu penses que tu aurais eu besoin
de...
T'aurais eu besoin de combien concrètement avant de te lancer? Si tu devais le refaire.
Franchement, vu comment j'ai commencé, même 10 000 euros, pour moi, ça aurait été énorme.
Ouais, 10 000 euros, c'est une bonne base
même
pour se lancer.
Même 5 000, j'ai commencé vraiment, j'avais rien, j'avais mon salaire. De temps en temps, tous les mois, j'allais acheter du tissu que je repérais. Des fois, je demandais à une femme que j'aimais beaucoup, qui travaillait dans une boutique de tissus, de me garder les tissus pour quand je pourrais les payer. Et je faisais des espèces de petits plans de collection. Du coup, j'achetais les couleurs en fonction, les matières en fonction. Et petit à petit, j'ai monté une petite collection qui était juste pour le visuel au départ. Mettre un site en ligne, montrer mon travail et l'envoyer un peu partout pour avoir des retours. Et c'est comme ça que ça a pris.
D'accord. Et est-ce que, justement, on voit beaucoup de jeunes créateurs et créatrices se lancer en ayant d'abord fédéré une communauté en ligne? Ça, est-ce que c'est quelque chose que tu trouves pertinent? Est-ce que si c'était à refaire, tu aurais commencé par ça aussi, juste, ou tu l'as fait, en fait? Est-ce que tu estimes que tu l'as fait réunir des fidèles, des gens inspirés par ton univers?
Ben, ça m'aurait facilité beaucoup de choses, c'est sûr. Mais... Je pense que c'est ma destinée d'être vraiment dans le... Moi, je suis dans le travail, en fait. Je suis vraiment dans le travail. C'est un truc que j'ai étudié. C'est une toute petite entreprise de 3 personnes. Et du coup, ce qui fait que... Enfin, vraiment, je sais faire des recherches, me documenter, faire du patronage, faire du sourcing. Je fais tout de A à Z. Et ça, je trouve que c'est une richesse qu'on ne peut pas m'enlever et tout le monde ne peut pas en dire autant. c'est pas une façon de dire que les autres sont pas crédibles ou... Mais bon. Chacun, franchement, chacun son...
Chacun son chacun. Ok, d'accord. Et justement, donc t'es quelqu'un qui est beaucoup dans le travail. Mais dans quelle mesure est-ce que le visuel c'est important aussi, par exemple alimenter un compte Instagram? Est-ce que c'est quelque chose qui t'occupe beaucoup? Est-ce que communiquer sur ta marque plus généralement, t'as l'impression que c'est de plus en plus nécessaire ou le travail peut suffire aujourd'hui?
Non, c'est nécessaire.
À l'ère d'Instagram.
C'est nécessaire. C'est vraiment, on est obligé aujourd'hui de communiquer tout le temps, d'avoir un lien avec sa communauté, pour qu'elle grandisse, pour que... Je sais pas, moi, mes clients, pour moi, enfin, c'est... Je les considère... Enfin, en tout cas, sur ma page, je les considère un peu comme ma... Enfin, je les appelle un peu ma tribu. Je les considère un peu comme mes copines, parce qu'en fait, je trouve ça incroyable qu'elles me fassent... Elles me font vivre, quelque part. Et je suis hyper reconnaissante de ça. Oui, je me suis lancée en me disant, je vais faire des vêtements, mais je savais pas que j'allais avoir des commandes qui allaient tomber, enfin... C'était, tu sais, tu te lances vraiment sans regarder où tu vas et un jour, t'as des commandes, on te demande des pièces pour des célébrités, enfin...
T'es habillée qui comme célébrité?
Je suis loin d'être arrivée là où je veux arriver, ça c'est clair, mais je pense que j'ai fait un bon bout de chemin quand même.
T'es habillée qui, par exemple, comme célébrité?
J'ai pas habillé beaucoup de célébrités, j'ai habillé... Ben, la plus récente, c'est Iseult. Oui. Avec qui j'ai travaillé à plusieurs reprises.
Et comment ça se passe justement ce genre de collaboration? Est-ce qu'on vient te voir en disant je vais acheter telle robe, point? Ou est-ce qu'on te présente l'événement et on te dit bah, qu'est-ce que ça t'inspire?
Ça a commencé comme ça. Elle a flashé sur une robe, elle m'a dit oui, je veux cette robe dans ma taille et tout. Et je dis bah let's go, je t'adore, j'aime trop ce que tu fais. Et c'est quelqu'un avec qui c'est hyper facile de travailler parce qu'elle a la vision. Elle a les refs et ça va hyper vite en fait. Tu vois, c'est tac tac tac, elle me donne une idée, je lui donne une idée et on y va. Et elle sait vraiment ce qu'elle veut quoi. Donc quand c'est comme ça, c'est easy et voilà.
Ok. Est-ce que Kémaïs a une question? Est-ce que Sarah a une question?
Bah là, je suis en train de voir l'Instagram et tout. Je trouve que c'est vraiment beau. Il y a ce côté très épuré et ouais, on voit les choses. Que c'est divers, que c'est mélangé, que et aussi on a aussi ce trait de personnalité de Fatoumata et je trouve ça incroyable, c'est vraiment beau. Et je voulais savoir aussi, ça fait combien d'années que ton entreprise est en activité?
Je dirais qu'elle est en activité sérieusement peut-être 2 ans.
2 ans. Okay.
2 ans parce que enfin comme je disais, en réalité j'ai été salariée jusqu'à l'année dernière quoi.
Ouais. Donc
Et comment t'as fait pour ne pas faire de burn-out?
Bah oui, ça c'est la
est-ce
question.
Est-ce que j'en ai fait, est-ce que j'en ai pas fait? Je ne sais pas. Mais on va dire que c'était pas facile en tout cas. Je saurais pas diagnostiquer si j'en ai fait un ou pas, mais il y avait vraiment des périodes pas faciles. Ça c'est clair.
Et moi, il y a une question que j'aimerais bien te poser, c'est autour de ton processus créatif. Comment tu fais pour... Est-ce que c'est... comment tu fais pour avoir l'idée, pour avoir l'inspi, pour comment ça se passe? Entre y a rien et il y a une collection sur le site dispo. D'un point de vue créa, en tout cas.
D'un point de vue créa, ben par exemple pour la collection Child of Migrant, je voulais représenter un peu l'enfant de l'immigré dans un contexte occidental. Comment est-ce qu'il porte sur lui son héritage? Sans être déguisé, sans être en gardant sa personnalité. Enfin, c'est comme la femme qui reste facile, mais elle est quand même assez sexy. Donc, comment tout ça se mélange? Et ce qui était important pour moi, c'est que toutes les influences se marient entre elles aussi. Donc, à partir de là, je trouve l'idée Child of Migrants, le nom de la collection. Et là, ben tout de suite, je pars dans des recherches pas possibles, ancestrales, en partant du nord du Maghreb au sud du Mali, enfin, et je mélange le maximum de codes qui me parlent en fait et qui m'inspirent et voilà.
Du coup, là tu parlais du nord du Maghreb et du Mali, est-ce que c'est une marque qui est très ancrée en Afrique? Est-ce que c'est important pour toi?
Oui.
D'accord.
Enfin, ce qui m'inspire le plus, c'est aussi les gens qui me ressemblent, donc forcément, oui, moi ben, je suis une femme noire d'Afrique de l'Ouest, guinéenne et sénégalaise, j'ai grandi avec des Marocaines, des Algériennes, des gens de couleur, beaucoup. pas que, mais beaucoup, en majorité quand même. Et c'est sûr que c'est vraiment ce qui va m'inspirer le plus.
Et est-ce que tu as l'impression, justement, par ces inspirations-là et aussi par le fait d'être une femme noire dans l'industrie de la mode française et internationale, d'être exotisée parfois, d'être fétichisée aussi par les médias ou par les gens qui se disent « Ah, en fait, il me faut une femme noire comme créatrice pour bien faire médiatiquement
?»
Ou on n'en est pas encore là?
On n'en est pas encore là. Mais ce que j'ai remarqué, en tout cas, à mes débuts, c'est que j'avais du mal à faire comprendre que malgré le fait que j'utilise des mannequins pour la plupart racisés, ça ne veut pas dire que mes vêtements ne sont faits que pour les gens racisés, en fait. Et ça, j'avais du mal parce qu'on me contactait que pour des artistes noirs. Enfin, les mêmes stylistes qui allaient habiller, je sais pas moi, Angèle et qui allaient habiller... qui d'autre ? Angèle et, par exemple, Aya, on allait m'appeler que pour Aya alors que la personne, elle gère les deux artistes. Mais pour elle, c'est inconcevable de m'appeler pour Angèle alors que, enfin non.
Pourquoi, à ton avis ?
Parce que c'est l'esprit trop fermé, pas assez ouvert, je pense.
Donc, pour toi, le fait que des stylistes ne te contactent pas forcément pour des artistes blanches, pour toi, c'est vraiment avoir un esprit fermé sur le fait qu'elle peut avoir des problèmes sur les réseaux sociaux si elle porte ta marque et que les gens utilisent des grands mots, commencent à faire des polémiques.
Non, je pense pas des problèmes, mais c'est plus dans le sens où ils arrivent pas à s'imaginer une femme blanche dans mes vêtements, parce que quand ils vont le voir porter, ça va être porté sur une femme noire, une femme de ou une femme de couleur, et du coup ils arrivent pas à se projeter, alors que, enfin, je pense que toi et moi, par exemple, depuis qu'on est petite, on regarde des Vogue, on regarde la télé.
Ouais.
On n'avait pas le choix de se projeter, en fait. Sinon.
Bah oui, clairement. Mais ce que je trouve ça intéressant, c'est que toi, tu mélanges plusieurs pays d'Afrique, alors que très souvent, on a cette séparation entre l'Afrique du Nord et l'Afrique centrale et du Sud. Tout simplement parce que je pense qu'il y a aussi ce problème, comme tu dis, de fermeture d'esprit, ce problème de, du fait que non, on se ressemble pas, non, on est complètement différent, on n'est pas ensemble, etc. On entend beaucoup ces mots-là qui sont, pour moi, qui sont graves, hein, parce que premièrement, on est tous africains, avec un grand A, qu'on le veuille ou non. Et en fait, toi, t'as réussi à casser cette barrière que beaucoup de gens, donc la société en règle générale, impose sur la vision de l'Afrique avec un grand A. En gros, vraiment qu'il y a une séparation entre ceux qui sont d'Afrique du Nord, ceux qui sont de l'Afrique centrale et ceux qui sont de l'Afrique du Sud. Et ça, je trouve ça super bien, surtout à travers le vêtement. C'est pas facile. Et je voulais savoir, est-ce que t'as déjà eu des petites polémiques par des personnes qui ont du mal à comprendre en fait ton univers, où est-ce que tu veux te projeter sur cette en fait, pour enlever, bah en fait, que t'aies retiré cette séparation que beaucoup de gens mettent automatiquement. Est-ce que t'as déjà eu des polémiques là-dessus, en fait?
Alors jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas eu encore de polémiques, mais je pense que ça arrivera. La seule réflexion qu'on m'a souvent faite, mais en fait, je comprends pas, mais pourquoi Gueras Fatim? Ça, c'est une question qui revient souvent sur un ton qui pose une question, genre, tu t'appelles Gerasi Fatoumata, pourquoi Gueras Fatim?
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ça, c'est une question qui revient souvent avec...
Pourquoi? Je comprends pas.
Ouais, genre, je comprends pas, en fait.
Non, vraiment, je comprends pas pourquoi tu poses la question.
Oui, bah, en fait, pourquoi gens-là ont cette question-là?
Non, mais on m'a souvent posé cette question, même jusqu'aujourd'hui, hein.
Ok.
Pourquoi t'as choisi Gueras Fatim? Ça fait un peu arabe, ça fait un peu espagnol, je sais pas trop comment situer, du coup. Pourquoi je devrais avoir une identité pour une marque? Pourquoi je pourrais pas...
Oui, être une marque internationale ou panafricaine. Voilà. Ouais, ce syncrétisme des cultures est hyper intéressant. Toi, qu'est-ce que ça t'évoque?
Il n'y a pas que l'Afrique, il y a aussi beaucoup l'Asie, l'Asie du Sud. Oui. Après, c'est beaucoup, j'ai grandi, on regardait des Bollywood tout le temps avec ma mère, parce que comme je disais, on a beaucoup de points en commun. On aime l'opulence, on aime la beauté. Enfin,
c'est des cultures en fait qui t'ont entouré.
Enfin, voilà.
C'est ça en fait. C'est des cultures qui t'ont entouré. Enfin, t'as pu les apercevoir, t'as pu les voir. Enfin, et tu admires. En soi, tu admires. Et même, tu n'as pas envie qu'on te mette dans une case aussi.
Non.
Comme, mais moi, je trouve que le gros souci aussi de la société, c'est qu'ils aiment beaucoup mettre les créateurs africains avec un grand A dans une case. Genre, à vous, vous êtes réservé uniquement pour ces gens-là. À vous, vous êtes réservé uniquement pour cette communauté, etc. Et je trouve que toi, t'arrives à, en fait, à dire non, moi, me mettez dans aucune case. Moi, je fais ce que je trouve magnifique, ce qui m'inspire, et c'est tout. Et me mettez pas, oui, mais toi, t'es pour ces genres de personnes-là, cette communauté-là, cette tribu-là. Enfin, voilà. Mais je trouve ça... Enfin, moi, j'admire.
Merci.
Et
mais en fait, ce qui est, moi je trouve, enfin,
2, 3, 4, c'est bon,
on commence. Ce que je trouve hyper intéressant aussi, en Afrique, effectivement, lorsque tu parles de l'Afrique du Nord et de l'Afrique noire, et souvent on fait une grosse séparation entre les deux parce que les Africains, enfin. En gros, enfin, il y a du racisme aussi en Afrique.
Oui,
hein,
ah, oui,
les Arabes et les Noirs, ah, c'est pas tout le temps chouette.
Ouais.
Bref, de s'intéresser au syncrétisme des cultures par le vêtement, c'est juste parfait puisque c'est précisément par le vêtement que toutes les cultures ont circulé en
Exactement.
Afrique. On a toujours l'habitude de penser aux échanges nord-sud ou sud-nord, mais on pense jamais aux échanges sud-sud. C'est-à-dire, enfin, j'entends les pays du sud. Global, comme on appelle ça, mais aussi géographiquement parlant. Mmh. Je sais pas, moi, par exemple, la djellaba.
Ah.
Déjà, ça, bon, il y a des formes primitives de djellaba dans les cultures de l'Antiquité méditerranéenne, mais en même temps, elle s'est entièrement hybridée avec l'abaya des Arabes d'Arabie.
C'est ça.
Elle va donner ensuite, par la suite, le boubou dans une certaine
C'est
forme.
Ça. Enfin. Et il y a cette influence-là qu'on doit accepter. Par exemple, bah, tu parlais de certains pays du Maghreb et aussi du Moyen-Orient. Mmh. L'Empire ottoman a énormément influencé dans le vêtement dans ces pays-là. Et ça, en fait, on a du mal à le comprendre et que beaucoup de gens se disent « Non, ça nous appartient. C'est à nous. C'est que à nous. C'est que dans notre pays. Pourquoi vous commencez à faire des transformations ou quoi que ce soit ?» Ça commence à créer sur les grands mots « appropriation culturelle », dont je pense qu'on va en parler.
L'appropriation culturelle,
en ce moment, on n'entend que ça. Je sais que voilà, dans la communauté maghrébine, on n'entend que ça en ce moment. Je ne sais pas ce qui se passe, mais on n'entend que ça entre l'Algérie et le Maroc. Il n'y a que ça en ce moment. Et alors qu'en fait, on a été influencé par des empires, par beaucoup de pays, beaucoup de cultures
aussi,
en fait.
Se souvenir aussi que les frontières de l'Afrique, vous vous êtes jamais demandé pourquoi est-ce qu'elles sont coupées,
aussi droite,
au compas et tout ça. C'est le résultat d'une conférence, la conférence de Berlin, 1884-1885, où vous avez toutes les plus grandes puissances européennes de l'époque qui se sont dit, bon, ok, très bien, l'Afrique est un énorme gâteau.
On va le couper.
Qui prend quoi?
Et
en fait,
c'est ça.
Moi, ce qui m'énerve avec cette espèce de chauvinisme et de patriotisme africain entre les Maliens et les Sénégalais, les Africains, enfin les Tunisiens et les Algériens et tout ça, c'est qu'en fait c'est, j'ai l'impression que c'est une haine qui est construite par l'Occident.
Oui, bien sûr.
De sortir de cette idée de la frontière, parce que il y en avait. En fait, il y en avait pas vraiment. Enfin, il y en avait sans en avoir. Il y avait des régences, il y avait des territoires qui appartenaient à certains empires, etc. Mais c'était pas aussi
c'était tranché, coupé, enfin, clairement.
Je trouve que... Mais du coup aussi, je voulais réagir à faisant un petit peu l'avocat du diable. Lorsque, par exemple, dans ta communication sur les réseaux, tu ne choisis que des personnes racisées, est-ce que t'as pas l'impression que, d'emblée, tu t'exclus la blanchité? Et que du coup, en fait, la cliente blanche serait du coup dans « je m'interdis de porter ça, puisque je ne suis pas la target », en gros. Et en fait, de se mettre juste un... enfin de changer le point de vue et de se dire ouais mais peut-être qu'elle a raison, ou même si je suis pas d'accord avec elle et même si elle est fermée d'esprit et qu'elle est étroite et que elle on pourrait engager une conversation intelligente,
bien sûr,
de prime abord tous les mannequins sont noirs ou arabes, est-ce que je suis la target? Et comme la mode ça n'est qu'une question de représentation, et je me représente. Et en même temps tu disais un truc hyper intéressant tout à l'heure parce que tu disais
c'est trop facile, hein.
On a été obligé de s'identifier à des blondes aux yeux bleus.
Bah ouais, on n'avait pas le choix. Et...
parce qu'il y avait
en fait,
ça.
Faut casser ce truc où tu dois forcément pouvoir t'identifier.
Mais surtout qu'en plus, aujourd'hui, avec le climat qui est aussi tendu avec l'appropriation culturelle, est-ce que ça serait OK pour, disons, une petite blanche du marais woke qui lit Bell Hooks et tout ça, de venir porter des trucs sans avoir l'impression que son propre... En plus d'appeler... Tu vois, par exemple, je trouve que c'est hyper intéressant que tu appelles ta collection Shade of Migration. Enfin, c'est trop intéressant de enfin bref, de trouver des mots, de trouver des formes et tout ça. Mais elle, qu'est-ce que ça lui raconte, Shade of Migration ?
Ça la fait voyager, ça la sort de son petit Paris, dans son dressing, quoi. Enfin, moi, je suis quelqu'un qui adore apporter des choses de voyage. Je pense que la petite bobo du 17e, elle va faire la même chose. Enfin, à un moment donné, faut juste être ouvert et... Il y a, je fais pas forcément de wax, je fais pas forcément un imprimé proprement, enfin vraiment.
Ça, c'est la question que je voulais te poser aussi.
Africain. Donc, je pense qu'il y a une palette pour tout le monde dans cette collection. Après, c'est vrai qu'il faut l'assumer, mais ça, pour moi, c'est plus une question de personnalité après. C'est pas une question de est-ce que je peux me permettre parce que vu que je suis blanche, non. C'est, si t'as la personnalité, t'embrasses le vêtement, en fait, et y a pas de... tout va bien se passer, en fait.
Est-ce que tu t'interdis de faire du wax ? Ou juste, tu kiffes pas spécialement ce tissu ?
C'est un parti pris. Après, j'ai pas forcément de... Il y a des wax qui sont très beaux, hein. Ça, c'est plus une question.
Sachant que le wax a son histoire aussi, de ses origines, d'où ça vient.
Et non, moi, j'ai préféré plutôt... quitte à utiliser des produits... ou des tissus dits africains, j'ai préféré utiliser par exemple de l'indigo, qui est un coton qui va être teint à la main avec un espèce de processus artisanal qui est beaucoup plus intéressant et qui du coup est proprement un tissu qui va me parler parce que je l'ai vu, parce que c'est un truc...
Est-ce qu'on dit pas bangolan ?
Bogolan.
Bogolan, c'est ça.
Le bogolan, c'est autre chose aussi. En tout cas, c'est le type de tissu qui m'intéresse pour la création. Et puis le wax aujourd'hui, c'est bon en fait.
Ouais.
Les gars, c'est bon.
Ouais.
On l'a vu.
Il n'y a pas que le wax.
On a compris.
Ouais, c'est ça.
Donc voilà, c'est aussi une façon de me différencier et de travailler mon côté afro dans d'autres manières. Par exemple, faire une jupe pagne, ce genre de choses-là, des trucs un peu plus subtils, mais qui peut parler quand même à ma communauté.
Oui, justement, est-ce que la mode africaine n'est pas trop souvent résumée au wax ?
Clairement. Si.
Malheureusement.
Malheureusement.
Ouais. Ça, c'est une question qu'on pose souvent. Ah, t'es créatrice, t'as des trucs en wax ? Ah bah non, désolée.
Comment ça ?
Et est-ce que justement le bogolan...
Bon, c'est logique en fait. Et quand tu vois... Ah, ok.
Et justement, il y a plein d'autres tissus, comme le kente, comme le bogolan dont tu parlais. Est-ce que c'est des choses qui t'intéressent ? Est-ce que c'est des artisanats que tu essaies de valoriser aussi ?
Bien sûr. Bah, pour l'instant, j'ai utilisé que du pain tissé de Côte d'Ivoire, qui va
comment
se rapprocher du kente et du bogolan en termes de technique de tissage et l'indigo.
Et justement, comment est-ce que tu décrirais cette technique de tissage pour les gens qui ne connaîtraient pas ?
Alors là...
Si c'est trop compliqué, t'inquiète, c'est pas grave. On
c'est un peu compliqué. Bah, c'est un tissage manuel qui est fait avec comment dire ? Je ne sais même plus comment on appelle ça. Des métiers à tisser en bois ?
Ouais.
Et ça prend des heures à être tissé, et c'est quelque chose de... En Afrique, en tout cas, c'est très onéreux. C'est quelque chose qui va être destiné à des familles un peu royales, d'une certaine lignée qui va représenter une sorte de noblesse.
D'accord.
Donc je préfère mettre ça en avant qu'un wax qui vient d'Hollande, même s'il y en a des très jolis, c'est sûr. Mais bon, no shade.
D'accord. Et justement, est-ce que ces savoir-faire artisanaux traditionnels de certaines parties de l'Afrique sont en train de disparaître ? Est-ce que tu penses que la création contemporaine peut aussi servir à préserver ces savoir-faire traditionnels ?
Ce qui est bien aujourd'hui, c'est que du coup, on est plusieurs à avoir cette vision-là de mettre en avant l'artisanat africain. Et je pense qu'à partir du moment où on va en Afrique pour créer ensemble dans des conditions correctes, ça, c'est que du plus, en fait. Parce qu'on partage la culture, on apporte du travail, et voilà, enfin, c'est surtout tant que c'est fait dans le respect, moi, je trouve que c'est une bonne chose, et qu'au contraire, ça se perd pas, enfin, ça revient même. Parce qu'il y a de la demande, il y a plein de créateurs, je suis vraiment pas la seule à... Il y en a qui sont même spécialisés dans le kente, et ce genre de tissu-là, donc... ouais.
Et cette demande grandissante... Ah non, pardon, j'ai oublié ce que je voulais dire. Mais c'était par rapport au fait que la demande grandissait, elle vient aussi de créateurs occidentaux qui essayent de valoriser d'autres artisanats après avoir épuisé l'Asie, par exemple.
Mmh, ouais.
ou avoir épuisé le Mexique... Enfin, ils cherchent de nouvelles formes d'exotisme autrement.
Aussi.
Qu'est-ce que ça t'inspire, toi, de voir des marques comme Dior ou autres faire des collabs comme ça avec des artisans en les créditant, maintenant, d'ailleurs.
C'est déjà bien, parce que ça n'a pas toujours été le cas. J'ai envie de dire que peut-être, je peux comprendre que ça en énerve certains, mais en même temps, ils ont tellement puisé partout qu'ils restent plus que ça, et puis l'Afrique, c'est l'avenir, en fait. Donc si t'y es pas...
Tu rates.
Tu rates, en fait. T'as raté, donc...
Justement, il y avait
Virginie. Aujourd'hui, tout le monde va graviter autour, et voilà.
Ouais. Il me semble qu'il y avait Virgil Abloh aussi, qui avait fait des vêtements inspirés du kente, mais...
Oui.
Mais remasterisés. Justement, je crois qu'il avait fait... Enfin, je sais pas s'il avait précisément repris du vrai kente, ou s'il avait juste...
Si... Mes souvenirs sont bons, il y avait même un kente noir et blanc avec le logo LV, non ?
Ouais, ouais, ouais. Mais je me demandais si c'était vraiment du tissage en kente ou si c'était juste genre on a refait le même effet visuellement.
Je ne saurais pas te dire. Mmh. Mais ça aurait été intéressant qu'il fasse faire ça en Afrique, mais je ne suis pas sûre. Mais je ne sais pas, donc je préfère pas le dire.
Ouais, d'accord. Bah, justement, on parlait tout à l'heure d'appropriation culturelle. Je pense que ce serait bien de la définir. Qui veut se lancer dans ce sacré morceau ?
Oh là là. Oh là là.
Au
revoir.
Bon.
Oui, monsieur le professeur.
Monsieur, s'il vous plaît, la définition.
Non, déjà, il y a un truc que je voudrais dire d'abord en disclaimer avec l'appropriation culturelle, c'est que je trouve que c'est pas une fin en soi. Il y a énormément de personnes qui utilisent ce truc-là pour fermer le débat. C'est de l'appropriation culturelle, basta, c'est tout. C'est fini, on arrête là. Ils ont craché leur venin et on peut absolument pas discuter. Et du coup, moi, je trouve... Il y a un truc que... En gros, l'idée, c'est que, pour moi, un concept qui est valable, un vrai concept, c'est un concept qui est conceptualisable, intelligible, facile à... Enfin, pas forcément facile à comprendre, mais facile à utiliser, réutiliser. L'appropriation culturelle, c'est quand même... Il y a plein de... comment dire, d'exceptions qui confirment la règle et jusqu'où c'est de l'appréciation et jusqu'où
c'est
et à ça. Partir de quand ça devient
ouais,
de l'appropriation.
Oui, c'est vrai, il y a cette question appréciation-appropriation.
En fait, je trouve que du coup, plus qu'un concept, l'appropriation culturelle, c'est plus un outil pour comprendre qu'il y a en ce moment une volonté de changer les représentations, une volonté de visibiliser d'autres cultures et d'essayer de silencier un petit peu la mode occidentale, dans son hégémonie et dans sa puissance de frappe des groupes de luxe, etc., etc. Donc je trouve en fait qu'en termes... Enfin, lorsqu'on parle d'appropriation culturelle, plutôt que... Enfin, l'utiliser comme un outil cool, intéressant pour analyser ce qui se passe en ce moment et qu'est-ce que ça nous dit de la société contemporaine, en gros de la création contemporaine. Mais globalement, l'appropriation culturelle, c'est le mécanisme d'oppression par lequel une personne en situation de domination va piller les ressources d'un groupe minoritaire ou minorisé en décontextualisant, en appauvrissant et à des fins capitalistes. Globalement, c'est ça.
Oui, et voilà. À des fins capitalistes, c'est hyper important. Je pense que ce qui aide aussi à se dire est-ce que ça tient l'appropriation culturelle ou non, même si c'est un outil qui a beaucoup de limites, c'est de se demander à qui ça profite, est-ce que les bonnes personnes sont créditées ou non, en fait.
C'est surtout ça.
Quand une marque se met à faire du gameplay sans jamais dire d'où ça vient, par exemple, ça pose question. Et surtout quand elle en fait du profit et qu'elle s'en approprie l'autorité en termes de... Elle se revendique comme autrice du concept ou de la matière ou du savoir-faire. Là, pour moi, ça a un intérêt, en fait, de parler d'appropriation culturelle.
Bien sûr,
oui.
Bien sûr.
Toi, qu'est-ce que t'en penses, Sarah ? Qu'est-ce que t'en penses aussi, Fatou ? Est-ce que c'est une notion qui est utilisée trop souvent à mauvais escient ?
Alors, oui. Et même, je trouve dommage aussi que, par exemple, moi qui suis étudiante en mode, on n'en parle pas. Parce que je pense aussi qu'il y a des professeurs qui ont du mal avec ce sujet-là, ou du moins qui n'ont pas envie de... Enfin, c'est un peu un terrain glissant, entre guillemets. Et il faut vraiment avoir les connaissances pour pouvoir en parler. Et c'est pas tout le monde qui peut parler de ce sujet-là, qui peut définir ce sujet-là. Et en fait... C'est vrai qu'il y a aussi ce côté appréciation ou appropriation culturelle, et des fois les gens en fait ils veulent mettre juste dans une case les personnes qui effectuent certaines choses au niveau de la créativité, et c'est vrai après on se rend compte plus tard parce que en vrai l'appropriation culturelle, le sujet d'appropriation culturelle a commencé à s'en parler un peu plus tard. Quand ça a commencé, les gens n'en parlaient pas forcément parce qu'il n'y avait pas encore de mots là-dessus. Ça dérangeait, mais il n'y avait pas encore de mots là-dessus. Et là où les gens commençaient vraiment à parler que c'était problématique d'effectuer ce genre de choses, d'avoir ce côté dominant sur une culture qui nous appartient pas, sans forcément créditer d'où ça vient, et même jusqu'à qu'il y en a qui disent carrément que c'est moi qui ai créé cela, c'est moi qui ai inventé cette chose-là, alors que pas du tout. En fait, c'est des choses qui sont venues un peu plus tard, et c'est récent, et c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, ça s'est amplifié. Le sujet de l'appropriation culturelle, ça s'est fait encore plus parler qu'avant, et maintenant, aujourd'hui, y en a, ils sont dans certains viseurs, on est en train de se poser des questions, s'il n'y a pas des fois des appropriations culturelles sur certaines marques, qui ne critiquent pas d'où viennent leur inspiration, d'où ça vient, comment ils ont fait, etc. Et c'est un sujet qui, encore aujourd'hui, je me pose beaucoup de questions, et n'importe qui aussi peut être touché par l'appropriation culturelle. Il n'y a pas que les personnes occidentaux qui sont touchées par cela, mais il y a aussi, il y a des... En Afrique, comme on disait, on a encore ce problème-là. Moi, vu que je suis d'origine marocaine, je sais que, au Maroc, on veut absolument garder certains patrimoines, que tout de suite, on utilise le mot appropriation culturelle sur d'autres pays du Maghreb. Et en fait, c'est tellement un terrain glissant que même moi... J'ai du mal à le comprendre parce qu'il y a tellement de définitions d'appropriation culturelle que moi, Sarah, 21 ans, qui est créatrice de mode, où je m'inspire de l'Empire Ottoman, j'ai utilisé le mot Empire Ottoman parce que je pouvais pas dire je m'inspire de ma culture marocaine ou quoi. J'ai vraiment utilisé le mot Empire Ottoman parce que l'influence de la mode venait de là-bas dans ce que je veux faire. Et même moi, j'en ai peur de faire des erreurs. J'ai peur de glisser sur ce terrain-là et que, en fait, on vienne, on me tire dessus. Et appropriation culturelle, tu t'appropries une culture qui n'est pas la tienne. Regarde. Enfin, c'est aussi cette crainte que j'ai en tant que créatrice de mode, jeune créatrice et débutante. Et c'est vrai que, comme j'ai dit, c'est dommage qu'en fait, dans mes études, on n'en parle pas. En fait, on ne sensibilise pas sur ce sujet-là. C'est très compliqué. Même moi qui suis une personne issue de minorité racisée, j'ai peur de ça. J'ai du mal à le comprendre encore aujourd'hui. Donc j'ai beaucoup parlé.
Non, je t'en prie. Mais ça nous amène à parler de notre deuxième invité. Mais juste avant ça, je voulais dire... que c'est intéressant que... Enfin, ça dit bien que le concept est très mal compris parce que t'es clairement pas en position de domination sociale, en fait, ni économique.
Ouais,
donc,
oui, c'est ça le problème, c'est que...
Pourquoi
c'est
est-ce
ça.
Que tu serais taxé d'appropriation culturelle ?
C'est un terme qui est utilisé mais... pour un oui ou pour un non.
En fait, c'est la société, le souci, c'est... Bon, après, vous allez me dire, ouais, mais les réseaux sociaux, ça représente pas non plus le monde entier ou quoi que ce soit. Mais... essayer d'avoir une pression psychologique par les réseaux sociaux où on vous pointe du doigt en disant que vous faites de l'appropriation culturelle alors que vous avez jamais voulu faire du mal à qui que ce soit. Comme tu dis, Anthony, je n'ai jamais voulu avoir ce genre de domination. Je ne suis pas en position de domination. Malheureusement, les gens ne comprennent pas comme nous actuellement. Et c'est ça le problème. Et même si vous voulez... En fait, il y a vraiment un manque de sensibilisation sur ce sujet-là et trop de définitions différentes. Mmh. Et les gens, en fait, sont perdus. Et il y a des définitions de l'appropriation culturelle trop différentes qui... tu pètes ta tête, en fait. Tu sais plus
il
quoi faire, quoi.
Il a donné une très bonne définition, je trouve.
Une très... Ouais, ouais, non, mais clairement. C'est... Bah, ça se voit que c'est... Il y a trop eu de changements sur cette définition. Il y a trop de gens qui ont voulu faire à leur sauce la définition et... Et voilà quoi. Mais comme j'ai dit, en fait, l'appropriation culturelle, si on ne s'y connaît pas, si on ne sait pas parler de ce sujet-là, on se tait. Voilà, c'est... Et d'où... ça, beaucoup de gens ne comprennent pas.
Effectivement. D'où l'importance de la pédagogie de l'enseignement de mode. Donc, voilà. On va parler toi, Maïs. C'est une transition vraiment... on dirait que j'ai fait ça toute ma vie.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.